Bonsoir mes frères et sœurs. Tous les chrétiens du monde, tous les gens qui sont dans une église, se posent une question. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est pas vrai? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Qu'est-ce que Dieu a à me donner? Si par exemple je vous disais, tiens, je vais prier pour que Dieu vous donne les numéros de la loterie. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous diriez, mais c'est la volonté de Dieu, ça? Eh bien, je jure que non. Je suis sûr que ce n'est pas possible. Par contre, il y a des choses que Dieu veut. Alors, on va en lire. On va lire une prière. Paul est en prison. Il expose ce qu'un chrétien est lorsqu'il appartient à Jésus-Christ. Et puis, à deux reprises, dans cette prison, il est, tout d'un coup, on le voit poussé à prier. Alors, Éphésiens, chapitre 1er. C'est extraordinaire que nous sachions ce que nous sommes en Christ. Et quand vous lisez les Éphésiens, les trois premiers chapitres parlent de notre position, ce que nous sommes, ce que nous devenons lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Quand il dit que nous sommes ses enfants d'adoption, c'est beau de « Ah, j'appartenais au diable, maintenant mon père, c'est le Seigneur », etc. Et tout d'un coup, il arrête sa présentation de la position et fait des prières. Éphésiens chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, c'est bien quand on entend parler des chrétiens comme ça, non? Vous aimeriez qu'on dise, ah, moi j'ai entendu parler de M. Fatah, c'est un homme, il est plein de foi et plein d'amour. Est-ce que vous aimeriez qu'on parle comme ça de vous? Mais oui. Mais regardez, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Alors, pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Deuxièmement, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Troisièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et ensuite, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et on voit bien au verset 22, voyez, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné à qui? Pour chef suprême, à l'Église. Donc c'est la prière de l'apôtre Paul, puis il recommence à parler de cette position en Christ. Et au verset 12 du chapitre 3, il refait une prière. Et vous savez, c'est important les prières dans la Bible. Parce que les prières dans la Bible nous permettent de comprendre vraiment ce que Dieu veut. Alors on va lire cette prière encore. Éphésiens chapitre 3, verset 12. En lui, donc en Jésus, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voilà ce à quoi correspond notre réunion. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire votre nom, son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons, ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà le programme. Est-ce que vous réalisez ce que Dieu veut que vous sachiez, puisqu'il est dit « afin que vous sachiez » et « afin qu'il vous donne ». Parce que les choses que Dieu veut nous donner, il faut qu'on les sache, qu'on les apprenne. Par exemple, si quelqu'un croit en Dieu, il n'a jamais lu une promesse sur la guérison. Ça ne change rien au fait que Jésus guérit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des gens, ils croient en Dieu, mais jamais ils ont capté un moment que Dieu pouvait guérir. Mais dès qu'ils se mettent à lire un texte sur la guérison, le Seigneur, il peut me guérir, ben je vais prier. voyez ce que je veux dire? Et il y a plein de promesses comme ça qu'on ne connaît pas. Et le résultat, c'est que l'on passe à côté. Il y a bien des gens, ils croient en Dieu, ils ne lisent jamais la Bible. Il y a des gens, ils croient en Dieu, mais ils sont plus dans le « Dieu a-t-il réellement dit ?» que dans la certitude, dans l'assurance que tout ce que l'on vient de lire, Dieu veut que nous le sachions et Dieu veut nous le donner. Je ne sais pas si vous trouvez le programme intéressant, mais moi je trouve que c'est extraordinaire. Et si nous avions conscience de ce qui est contenu dans ces deux prières, je suis sûr que notre vie spirituelle changerait, que même un pécheur pourrait dire « mais moi je veux connaître ce Dieu qui est même capable de quoi ?» Une fois qu'on a cerné et appris, il est capable de faire, par la puissance qui est dans nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Vous le croyez ça, que c'est possible? Ou est-ce que Paul était pas bien ce jour-là? Il était en prison. Est-ce qu'il a eu un moment difficile et qu'il a dit quelque chose aussi insaisissable? Vous l'avez lu, le verset 20? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il y a des choses que vous aimeriez avoir, que vous aimeriez avoir pour Dieu, pour glorifier son nom, pas des choses pour, par intérêt personnel, mais pour la gloire du Seigneur. Eh bien, commençons peut-être par le début. Paul a écrit à ces gens, à Éphèse, bon, il y a de tout, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas, comme dans toutes les églises. Ce matin, il y a une dame qui me dit, mais est-ce qu'il y a une église dans la Bible où Dieu ne fait aucun reproche? Alors tiens, est-ce que vous savez la réponse? Oui. C'est bien. Vous avez été éduqué dans quelle famille? L'église de Philadelphie dans la Bible, dans l'Apocalypse, c'est une église à laquelle Jésus ne fait aucun reproche. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole, parce que tu as gardé ma parole. C'est une église qui était attachée à la parole et Dieu ne fait aucun reproche à cette église. Mais même Éphèse, d'ailleurs qu'on retrouve dans l'Apocalypse, les choses ne se sont pas forcément arrangées. Et s'ils avaient compris ça, ces deux prières, je peux vous dire qu'ils n'en seraient pas là où ils sont 50 ans après dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas saisi ce que Dieu leur avait dit. Ils ne l'avaient pas assimilé. Est-ce que vous réalisez cette... Afin que vous sachiez, il faut l'entendre, il faut le lire, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez, l'autre jour, moi je priais, je vous le dis, c'est à titre personnel, mais enfin, c'est bien de le partager. Parce que bon, je réfléchis sur cette guerre qui arrive, on le sent bien qu'il y a une guerre qui arrive, il n'y a pas besoin d'être un prophète pour s'en rendre compte. Et je me suis dit, mais cette guerre mondiale qui est décrite dans l'Apocalypse, elle va partir d'où? Et quand vous lisez l'Apocalypse, on peut le lire si vous voulez. C'est ça la révélation. Mais c'est parce que Dieu éclaire par sa parole. Je lisais l'Apocalypse, vous savez, cette fameuse guerre que l'Église ne vivra pas. Parce que croyez-moi, une chose est sûre, c'est que l'Église ne vivra pas cette guerre. Et cette guerre où un tiers de la population mondiale va mourir, elle part de où? Apocalypse chapitre 9, verset 13. Un esprit de révélation. Est-ce que vous demandez au Seigneur de la sagesse, du discernement, de l'intelligence? Est-ce que vous le demandez? Une dame me disait l'autre jour, au bout de 40 ans de conversion, je commence à demander à Dieu qu'il me donne de la sagesse. Vous voyez, elle a juste mis 40 ans pour se rendre compte qu'elle en avait besoin. Mais elle me l'a dit, elle ne m'a pas dit, il n'y a pas du tout de suspicion ni rien. Elle s'est rendue compte, au bout de 40 ans de marche avec Dieu, qu'elle pouvait demander à Dieu qu'il lui donne de la sagesse. Est-ce qu'elle a bien fait? Oui, bon, il aurait mieux valu que ce soit au bout de 20 ans, ou 5. Mais voyez, elle le fait. Regardez, Apocalypse 9, verset 13, le sixième ange sonna de la trompette. J'entendais une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Vous lisez la suite, c'est quand même impressionnant. D'où part cette guerre de l'Euphrate? Vous avez regardé les cartes de l'Irak, de la Syrie et de l'Irak. L'Euphrate, il part de la Turquie, il traverse la Syrie et l'Irak. Et il se jette dans la mer. Donc cette troisième guerre, elle partira de là. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que moi je vois des fois sur Internet tout ce qu'on peut dire. Les gens, ils sont sûrs que cette guerre, elle partira des États-Unis, parce que bon, les États-Unis sont à fond dans la révélation biblique. Mais moi, je vous dis que cette guerre, elle partira de Syrie ou d'Irak. C'est obligé. Vous le voyez comme moi dans la Bible. Et voyez, c'est ce qui illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, montre-moi. Et quand vous regardez les actualités internationales, vous comprenez combien ces deux pays sont en train d'être super armés par l'Iran, par le Hezbollah et toutes ces armées autour, avec un seul but, détruire un pays qui est juste à côté. Mes frères et sœurs, que Dieu nous donne de l'intelligence, qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que je sache qu'est-ce que tu veux faire. Bien sûr que c'est bien de comprendre les prophéties, mais là, dans ma vie, où tu m'as placé, dans ma maison, dans ma famille, dans l'église où je suis, quelle est ta volonté? Illumine les yeux de mon cœur. Je vous encourage à demander à Dieu, mais Seigneur, montre-moi ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que vous savez ce que Dieu veut faire avec vous? Est-ce que vous savez ce que Dieu peut faire avec vous? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec quelqu'un? Vous rappelez Joseph? Un petit jeune homme de 17 ans. Vous rappelez ce jeune homme? Il s'est pris une grosse tannée par ses frères. C'est affreux ce qui s'est passé. Il a été vendu comme esclave. Et vous avez vu ce à quoi Dieu le destinait? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Comment Dieu est capable, en quelques heures, combien de temps il a fallu pour que Joseph sorte de prison et qu'il se retrouve devant la pharaon et le soir qu'il avait le poste que Dieu lui a confié? Combien de temps il a fallu? Voilà, madame, vous écoutez pas bien. C'est vrai qu'il y a eu 13 ans d'épreuve, mais quand on l'a fait sortir de prison, en quelques heures, le prisonnier inconnu est devenu le plus grand ministre de l'histoire. Pourquoi? Mais parce que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais il faut qu'il y ait cette attitude de cœur. Et je crois que lorsque nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, que ce soit pour amener des gens au calvaire, ou pour que ce soit pour justement découvrir la volonté de Dieu, il faut que nous comprenions une chose, c'est que ce qui est écrit, il faut le méditer. Vous voyez? On le relit, s'il vous plaît. Quand même, mes frères et sœurs, d'accord? Regardez bien la prière de Paul. Il s'arrête. Et tout d'un coup, il dit, voilà ce que Dieu veut. Dieu veut une chose, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est dans la connaissance biblique. Faites attention quand vous allez voir sur YouTube toutes ces vidéos de prophètes américains qui vous parlent de la Troisième Guerre mondiale. Moi, je vous dis, écoutez, vous le comprenez ce que je vous dis. La guerre, elle partira de Syrie ou d'Irak. C'est obligé. Pourquoi? Parce que c'est au-dessus de l'Euphrate que ça se passe. Regardez sur une carte, d'accord? Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Vous voyez, il n'y a pas que ce que Dieu donne, il y a ce que l'on doit savoir. La bénédiction passe par la connaissance, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant. Cette puissance, elle doit se manifester. Comment? Il faut que ma foi, elle, se manifeste. Attendre passivement, ça ne sert à rien. Par contre, attendre dans la présence de Dieu, oui. Ça ne tient pas à grand-chose. Quelqu'un qui attend passivement, il attend, on verra bien. J'attends, on verra bien, j'espère. Et puis quelqu'un qui se met à genoux ou qui s'assoit dans sa chambre et qui dit, Seigneur, je m'attends à toi. J'en parlerai à personne. Mais je m'attends à toi. Vous croyez que ça plaît à Dieu, ça? Quand quelqu'un dit, dans le plus profond de son cœur, mais ce n'est pas la peine que j'en parle à quiconque, est-ce que Dieu le sait? Est-ce que Dieu le sait? Nous, pour l'Église, on avait besoin de quelque chose. Et moi, j'ai dit, non, j'en parle à personne. Et la mère de Saint-Orens, écoutez bien, la mère de Saint-Orens, elle-même m'a appelé pour me dire, Monsieur Gaud, j'ai à cœur de vous mettre en contact avec quelqu'un qui va régler tous vos problèmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Franchement, il n'y a que Dieu pour faire un truc pareil. Est-ce que Dieu peut tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour à une femme, rien n'est impossible à Dieu? Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? L'ange Gabriel. L'ange Gabriel est entré dans une maison, vous voyez, et il a dit à Marie, Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et si vous le croyez, le Seigneur y va agir. Il ne faut pas le croire avec le cerveau. Il faut le croire avec le cœur. Il faut, mais Seigneur, tout à l'heure je vais rentrer. Je veux, Seigneur, cet esprit de sagesse et de révélation. Je veux que quand je lis ta parole, je comprenne ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons? Mais vous avez vu qu'il y a une petite conjonction, le petit mot « or ». C'est pas que Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est que si je m'approche de Dieu, et si je laisse le Saint-Esprit m'envahir, faut pas rêver, c'est pas des promesses absurdes que l'on prend dans un casier, voilà, paf, sur un petit signet, Dieu peut faire infiniment. Tu as vu mon frère, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce qu'on demande. Tu as vu mon frère, toutes choses concourent au bien. C'est pas vrai. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas tout à fait la même chose. Quand il est dit à celui qui peut faire, qu'est-ce qu'il y a juste avant? Qu'est-ce qu'il y a juste avant? Vous ne m'aidez pas beaucoup. Hein? Qu'est-ce qu'il y a écrit juste avant? Or. Or, c'est quoi, or, en français? C'est une conjonction de coordination. Ça veut dire qu'il faut relier ce texte à celui d'avant. Et lorsque un homme fléchit les genoux devant le Père, lorsque un homme réalise que Dieu tient tout dans sa main, un homme qui peut recevoir la vie de l'Esprit, un homme qui peut être fortifié, comme le dit le verset 16, oui, être fortifié par le Saint-Esprit dans son esprit, lorsque vous fléchissez les genoux, lorsque vous vous retrouvez seul dans la présence de Dieu et que vos yeux sont fixés sur le Seigneur, sans vous en rendre compte, votre lampe intérieure se remplit d'huile. Et la vie de l'Esprit peut se manifester et jaillir, et on peut découvrir certaines choses, on peut être étonné par certaines choses, comprendre des choses spirituelles. Le Seigneur veut se révéler. C'est tout ce qu'on voit ce soir. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Vous n'avez pas envie d'être plein d'espérance? Paul dit, j'ai une pleine espérance. Lui, il ne parle pas d'un petit machin. Oui, j'ai un peu d'espérance, j'ai un peu de paix, j'ai un peu d'assurance, j'ai quelques convictions. Vous avez remarqué, quand Paul parle, il parle d'une pleine espérance, d'une pleine conviction, d'une pleine assurance, d'une pleine bénédiction. Quand il parle aux Romains, regardez, il faut comprendre ces choses. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pas des blagues, c'est une réalité concrète. Regardez quand il écrit aux Romains. Quand il écrit Romains, regardez ce qu'il dit, Romains chapitre 15, verset 29. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on va lire, si vous réalisez vraiment la portée de cette parole. Romains chapitre 15, verset 29. Regardez comment cet homme, il parle. Il est en communion avec Dieu, ce qu'on vient de lire, alors qu'il est en prison. Il le vit. Et regardez ce qu'il dit, et j'aimerais que nous soyons attachés à Dieu de telle sorte que nous soyons dans ce même état d'esprit. Regardez bien Romains 15, 29. Je sais, il le sait, c'est pas, il pense. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Vous pouvez dire Amen. Est-ce que vous réalisez ce qu'on est en train de lire? Cet homme, il déborde. Pourquoi? Parce que même s'il est en prison, il n'est pas là, j'en ai marre. Priez pour que je sorte de tôle, j'en peux plus, j'en ai marre. Non, il prie pour que Dieu remplisse son âme. Et pourtant, il était en prison. Il était en prison pourquoi? Il avait volé la caisse de l'église? Non. Qu'est-ce qu'il avait fait pour lui? Il avait volé l'argent à l'église? Non. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait prêché l'évangile. Il était en prison parce qu'il avait prêché l'évangile, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien lui, il est en prison, il ne râle pas, il ne s'affole pas, il est en communion avec Dieu et Dieu lui montre ce qu'il est capable de recevoir et il le reçoit. Et lorsqu'il agit, d'ailleurs c'est écrit dans la Bible, quand il fait quelque chose, il dit je vais aller vers vous avec une pleine bénédiction. Quand même, moi c'est pas mon sujet favori, la pleine bénédiction, mais quand même, Dieu en parle, oui ou non? Oui, on peut parler d'épreuves, on peut parler de douleurs, de faiblesses, de manquements. Tout ça, on a le droit d'en parler parce que c'est le lot de tous les hommes. Mais aussi, quand même, lorsque le Seigneur illumine nos yeux, on peut avoir une pleine espérance. On peut dire, mais je peux aller vers les autres avec une pleine bénédiction. Ça vous intéresse pas, ça, d'aller vers les gens avec une pleine bénédiction? où vous voulez y aller avec plein de problèmes pour les fatiguer. Parce qu'il y a des gens, vous savez, quand ça vous est jamais... Au téléphone, ça vous est jamais arrivé. Ah, c'est lui. Ça vous est jamais arrivé, ça. Ça vous est jamais arrivé. À vous, ça vous est jamais arrivé. Que ce soit quelqu'un. Chérie, c'est moi qui sais qui arrive à la maison. Oui ou non? Soyons, on ne va pas jouer les comédiens. Parce qu'il y a des gens, ils ne viennent pas avec la bénédiction. Ils viennent avec la fatigue. Et ils nous fatiguent. Mais quelle grâce quand un homme reçoit et qu'il peut aller vers les autres avec une pleine bénédiction. Et tout ça, ce n'est pas, c'est pas des paroles, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la théorie, c'est la vérité, c'est la vie. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Tout ce soir, je vais peut-être m'endormir, tiens, je vais lire un psaume. Est-ce que Dieu peut vous parler au travers d'un psaume? Est-ce que Dieu peut vous redire quelque chose que vous aviez besoin d'entendre? Une parole pleine d'espérance, pas un peu, hein, ça me fait du bien ce que tu me dis, ça me fait du bien. Mais il y a des gens comme ça, non, je suis fortifié à tous égards. Regardez, mais c'est quand même impressionnant, quand vous lisez vraiment les écrits de Paul, vous vous rendez compte que cet homme, il a écrit presque les deux tiers du Nouveau Testament, vous comprenez bien que s'il y a quelqu'un qui est bien reçu, c'est lui. D'ailleurs, il le dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il a reçu des choses que même les apôtres qui ont vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus n'ont pas reçues. Donc ça prouve bien que c'est pas la peine d'avoir été physiquement avec Jésus pour recevoir. Ça vous encourage pas ça? Parce qu'on pourrait dire, ils ont eu du bois, ils ont passé 3 ans et demi avec le Seigneur. Oui, mais il y en a un qui s'est suicidé, pour vous dire comment il avait compris. Vous voyez, c'est pas pour ça qu'il a vraiment reçu. Par contre, Paul ne l'a pas vu, à part sur le chemin de Damas, de manière particulière. Et s'il y en a un qui a reçu, c'est quelqu'un qui n'a pas été en contact physique avec Jésus. Pourquoi? Ça vous prouve quoi? Eh bien, que ce soir, pour nous, c'est la même chose. Nous pouvons recevoir. Seigneur, montre-moi. Moi, vous voyez, l'autre jour, j'ai regardé des vidéos là sur cette guerre. Et j'ai dit, mais comment des pasteurs peuvent dire des bêtises pareilles? Et je me suis dit, tu vas lire Apocalypse, et voyez, ça viendra de l'Irak et de la Syrie. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur le montre quand même dans sa connaissance. Si nous voulons savoir ce qui va arriver ou certaines choses, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas avec les prophètes des États-Unis ou d'ailleurs que l'on va forcément comprendre. C'est avec la parole de Dieu. J'aimerais revenir sur ce verset 20. Parce que quand même, vous savez, le Seigneur, il veut nous encourager. Il l'a dit, le Seigneur, prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Et il y en a un qui s'appliquera, bien sûr, comme on le voit au verset 12, de faire en sorte qu'on ne s'approche pas du Seigneur. Cette liberté que nous avons, vous vous rendez compte, n'importe qui sur la terre peut s'approcher de Dieu. Verset 12. Et le verset 20, on y revient quand même, parce que vraiment je pense que peut-être quelqu'un a besoin. Quelqu'un a besoin de réaliser que c'est vrai. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Pourtant, on peut en demander des choses, hein, et on peut en penser. Ça prouve quoi? Ben, ça prouve que Dieu lit dans nos pensées. Ça vous rassure de voir que Dieu lit vos pensées? Est-ce que vous réalisez? Anne, quand elle priait, elle ne parlait pas. Elle pensait. Quand Mikal, vous vous rappelez Mikal? C'est la fille de qui Mikal? C'est la fille de qui? De son père. De Saül. Une fois, elle a vu David arriver, il était dans une effervescence, une joie totale, et il nous est dit qu'elle le méprisa. Dans son cœur. Il n'y a personne qui l'a vu que Dieu. Elle le méprisa dans son cœur. Elle pensait, mais quel idiot! Quel idiot de se présenter comme ça! Et le résultat, c'est qu'elle a été stérile toute sa vie à cause de ce mépris. Mais si d'un côté on voit dans la Bible plein de gens qui ont pensé de mauvaises choses, d'un autre côté, on voit des gens qui pensent de bonnes choses. C'est pour cela que la Bible dit « Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée. » Parce qu'il faut veiller sur ses pensées. Et il faut les nourrir de promesses. Seigneur, tu te rends compte de ce que tu nous dis? Tu peux me donner infiniment au-delà de ce que je demande ou ce que je pense. Alors quelqu'un me disait, il y a quelques années de ça, il me disait, mais non, Dieu s'occupe de nos besoins. Il s'occupe de nos besoins, mais Dieu ne s'occupe pas de nos désirs. Ah bon? Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible qui montrent que Dieu s'occupe aussi de nos désirs? Est-ce qu'il y en a des textes? Alors vous allez m'aider. Rosanna, je vous écoute. Dans la Bible, allez. Ah d'accord, allez, donnez-moi un verset. Donnez-moi un verset sur les désirs, parce que c'est important. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est important de savoir que Dieu s'occupe de nos besoins. Mais c'est aussi important de savoir que Dieu s'occupe de nos désirs. Alors, Rosanna, ça ne suffit pas, ça. Allez, qui c'est qui m'aide? Psaume 38,10. C'est sûr? Allez, on va lire quelques psaumes sur les désirs. C'est important, vous savez, Dieu c'est un père. Hein? Alors, je vous interdis d'utiliser la concordance. Hein? Parce qu'il y en a qui pianotent leur téléphone, j'ai un petit problème là quand même. Alors, là c'est une expression. Psaume 38, « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. » Bon, mais ça prouve que Dieu connaît tout. Alors on va lire juste le psaume 34. C'est quand même important, voyez. Alors, psaume 34, il est où ce verset? C'est pas le psaume 34. 37, voilà. Regardez ce verset s'il est beau. Psaume 37, verset 4. Vous savez, c'est important ça, mes frères et sœurs. On a un Dieu qui connaît nos besoins et nos désirs. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça vous fait du bien ou non? Ou il faut le rayer dans la Bible? On le raye tous? Non, mais mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez, quand Paul dit mais qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que nous sachions ce qui pourrait nous remplir d'espérance. Il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 20, verset 5. Regardez. Moi, c'est des versets que j'ai appris parce que je trouve que c'est bien. Voyez ? Psaume 20, verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Ça me fait du bien, ça. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Regardez, au psaume 21, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Ça vous fait pas du bien? Je sais pas si vous vous rendez compte combien notre Dieu est vraiment un père. Il sait ces choses. Ô Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, que lorsque je m'approcherai de toi, je ne m'approche pas que par rapport à mes besoins, mais que je sache aussi que tu es capable de répondre à mes désirs. Psaume 145, verset 19. C'est quand même, moi je trouve que c'est merveilleux. Alors, psaume 145. Si c'était écrit qu'une fois, on pourrait dire, bon, c'est peut-être exceptionnel, c'est peut-être, bon, réservé à une forme d'élite, des gens qui sont en haut du pavé, comme on dit. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Vous voyez, là il y a une précision. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Vous comprenez bien que Dieu ne va pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Mais quelqu'un qui a le respect de Dieu, qui craint Dieu vraiment, il accomplit ses désirs. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Encore un psaume, un proverbe 10, 24. Proverbe 10, 24. Vous voyez, c'est des textes que vous pouvez apprendre, ça. Quand même, quel verset? C'est un beau verset. Ça, souvent, on se rappelle de la première partie, mais moi, je préfère me souvenir de la seconde. Proverbe 10, 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que désirent les justes, leur est accordée. Et les justes, ce sont ceux qui obéissent. C'est quoi les justes? C'est quoi dans la Bible? Allez, on va terminer avec ça. Parce qu'il n'est pas dit ce que désirent les croyants, les justes. Les justes, ce sont les, sont pas les gens qui sont justifiés, bien sûr, c'est évident. Par le sang de Jésus-Christ, parce qu'au calvaire, il est mort sur la croix pour nous, il a été fait pour nous, justification. Mais les justes dans la Bible, ce ne sont pas les justifiés. Les justes, ce sont ceux qui pratiquent la justice. Ce sont ceux qui obéissent à la parole. Et lorsque nous disons, oh mais Seigneur, moi je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi avec assurance, parce que je sais que tu ne me rejettes pas. Et ce que tu m'as dit ce soir, ben, ça m'encourage. Tu peux prendre soin de mes désirs. Tu accomplis les désirs de ceux qui te craignent. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas si nous réalisons comment Dieu peut illuminer les yeux de notre cœur. Et lire une promesse en disant, mais Seigneur, en plus, tu peux faire infiniment au-delà de ce que je te demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre ces choses au sérieux, Seigneur, mais moi aussi, illumine les yeux de mon cœur. Oui, je veux comprendre des prophéties, je veux comprendre, oui, peut-être, est-ce que c'est important pour vous de savoir où débutera la Troisième Guerre mondiale? Allez, soyons honnêtes, est-ce que c'est important? Et on sera levé avant. Mais c'est vrai que c'est de là que ça partira. Ce n'est pas tellement important, mais la suite quand même. Vous comprenez pourquoi j'ai mis en opposé des choses prophétiques qui sont importantes peut-être pour des pasteurs qui veulent faire des prédications. Mais la deuxième partie, est-ce que ce n'est pas utile, mes frères et sœurs? Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et il n'y a que Dieu qui voit ce qui se passe dans le cœur. Et le Seigneur, il peut vous étonner. Il est tout puissant. Il peut faire infiniment au-delà de ce qu'on demande. Moi, je voudrais que vous soyez encouragés. Que vous partiez en disant, monsieur, on n'a même plus besoin de revenir à l'église, on ne reviendra plus, on est encouragé tellement, jusqu'à notre dernier jour. Je blague, hein. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ces promesses? Est-ce que vous voulez dire, oh Seigneur, quand même, que tu es bon? Vous voyez, comme cette sœur qui m'avait dit, hein, Dieu ne s'occupe que de nos besoins, nos désirs, c'est secondaire. Eh bien, je suis désolé. Nos désirs, c'est aussi important. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour devenir notre Père. Alléluia. Et moi j'apprécie quand les anges viennent dans les maisons et qu'ils disent « Rien n'est impossible à Dieu. Que son nom soit béni. » On demande au Seigneur qu'il nous aide. On va lui demander qu'il illumine les yeux de notre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec cette prière? Vous êtes d'accord? Mais on le fait, on le demande vraiment. Notre Père, tu nous as laissé ces passages, plus beaux les uns que les autres, pour que nous puissions être éclairés. Seigneur, oui, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel, afin que nous aussi, là où nous irons, là où tu nous enverras, nous puissions dire que c'est avec une pleine bénédiction du Seigneur. Seigneur, nous voulons, tu vois, nous allons rentrer, demain nous allons côtoyer des gens. Donne-nous cette grâce d'avoir le cœur rempli d'espérance, de réaliser que tu prends soin de nous, que tu prends soin de nos besoins, que tu es ce Dieu qui pourvoit, mais tu es également, Seigneur, ce Dieu qui peut combler les désirs d'un homme. Seigneur, vraiment, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous savons en plus que toute l'éternité, tu prendras soin de nous, mais déjà ici-bas, tu nous accordes en plus cette grâce à cause de ton infinie puissance, de l'infinie grandeur de ta puissance, de nous accorder également les désirs qui ne nous éloigneront pas de toi. Seigneur, que tout ce que tu nous accorderas, jamais, Seigneur, ne nous éloigne de toi, mais au contraire, puisse nous faire rester attachés à toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.